cloche a sonné, ça veut dire qu'on a passé la demi-heure. Nous sommes donc au quatrième jour de notre neuvaine, presque à la moitié. Presque à la moitié, et demain, quand on se retrouvera, on aura déjà dépassé la moitié. Donc cette neuvaine qui consiste à revisiter le mystère de l'Immaculée Conception à la lumière de l'Écriture, à la lumière de la parole de Dieu, à partir de ces textes de Genèse qui témoignent de la vocation de l'homme et de la femme à l'image de Dieu, cette vocation à la communion. Hier, nous avons abordé une question un peu plus difficile, celle de la tentation et du péché, et on s'est attardé quelque peu sur les conséquences du péché dans notre rapport à Dieu, dans notre rapport à nous-mêmes, dans notre rapport à l'autre, dans la relation homme-femme. Comment est-ce que la séparation avec Dieu, la distance prise avec Dieu, vient inscrire en nous une distance, un abîme, et qui fait qu'on a du mal à s'assumer, d'où la honte qui vient s'installer par rapport à notre corporéité, la façon dont on s'exprime corporellement. C'est la raison pour laquelle Adam et Ève, c'est comme ça qu'on les appelle, vont se cacher. Ils vont se cacher de Dieu, vont se cacher d'eux-mêmes. Ils vont se cacher l'un par rapport à l'autre. Et puis, comme on l'avait noté, ils vont se cacher parmi les arbustes. Donc ils ne voient plus, ils ne repèrent plus ce qui fait leur humanité. Ils sont dans la confusion. Quand on se sépare de Dieu, on entre dans une confusion. J'avais fait allusion aussi à ce que l'on vit dans notre société post-athée. Post-athée, ça veut dire qu'il a un peu pris distance avec Dieu, qu'il a beaucoup pris distance avec Dieu. Eh bien, effectivement, la question de l'être homme, de l'être femme, n'est plus du tout de l'ordre de l'évidence, à travers la question du genre et de l'idéologie du genre que l'on retrouve dans différents domaines. Et puis, la confusion aussi par rapport à la place de l'homme dans la création. Quelle est la différence entre un homme et un bonobo? Vous savez, un bonobo, c'est ce singe qui apprend qui sait dire un nombre de mots. Donc ce sont des questions que les philosophes se posent aujourd'hui. Donc on voit que voilà, il y a une confusion qui s'est installée. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se poser de questions, mais on découvre à la lumière de la parole de Dieu que celui qui nous éclaire réellement sur notre humanité, sur notre vocation, c'est le Seigneur. Alors, je voudrais encore aborder avec vous une conséquence du péché, celle qui va s'inscrire dans la relation fraternelle. Vous savez que dans une vie communautaire, les sœurs savent bien ça, il y faut vivre la fraternité. Une paroisse où on célèbre l'Eucharistie, Jésus qui donne sa vie, est là pour faire de nous de plus en plus des frères et des sœurs en humanité. Alors on va essayer de voir ce que cela veut dire, alors peut-être pas à la lumière du meilleur exemple, mais cet exemple peut nous enseigner beaucoup de ce qui habite notre cœur. Alors donc on va prendre Genèse 4, l'histoire de Caïn et Abel. L'homme connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit « J'ai acquis un homme de par le Seigneur. » Donc la bénédiction se réalise, le soyez fécond, malgré le péché, se réalise. Donc il y a une fécondité qui s'exprime à travers la procréation, à travers la personne de Caïn. Elle donna aussi le jour à Abel, frère de Caïn. Or Abel devint pasteur de petit bétail et Caïn cultivait le sol. Jusque-là, tout va bien, on repère le soyez fécond, on repère le dominer, le rapport aux créatures, à la terre, la façon dont on peut cultiver la terre et dont on peut s'occuper d'animaux, s'occuper du petit bétail, comme il est dit dans le texte. C'est à partir du verset 3 que ça se complique. Le temps passa et il advint que Caïn présenta des produits du sol en offrande au Seigneur. Et qu'Abel, de son côté, offrit les premiers-nés de son troupeau et même de leur graisse. Or, le Seigneur agréa Abel et son offrande, mais il n'agréa pas Caïn et son offrande. Alors, quelle est la réaction qui vient en vous lorsque vous entendez cela? Qu'est-ce qui monte dans votre cœur? Ce qui monte dans notre cœur habituellement, c'est « non, mais c'est pas juste, il n'y a pas de raison ». Pourquoi est-ce qu'il agrée un et pourquoi est-ce qu'il agrée pas l'offrande de l'autre, hein? Donc on porte en nous une conception de la justice extrêmement égalitaire, et qui mérite d'être questionnée, cette conception de la justice. Il est habituel dans l'histoire du salut que le Seigneur choisit l'un et pas l'autre. Hein, qu'est-ce que l'histoire du salut nous enseigne concernant ce qu'on appelle habituellement l'élection? C'est qu'elle n'est pas forcément une exclusion. L'élection n'est pas forcément une exclusion. Lorsque l'un est choisi, hein, lorsque Abraham est choisi, lorsque le peuple d'Israël est choisi, lorsque parmi le peuple d'Israël, il y a des prophètes qui sont choisis, eh bien c'est pour le bien de tous. C'est pour le bien de tous. Quand le Seigneur agrée une offrande, quand le Seigneur fait élection, ce n'est pas pour exclure. Ce n'est pas pour exclure. Cette impression qu'on a de l'exclusion, eh bien, précisément, c'est la cicatrice, hein, que l'on porte en nous, et qui vient du péché originel. Hein, cette distance qu'on a pris avec Dieu, a ouvert comme un abîme en nous. Hein, on a un besoin très profond de reconnaissance. On a un besoin très profond d'être aimé. Et cela est juste, parce que c'est l'amour qui nous comble. Mais ce besoin d'être aimé se transforme parfois en jalousie. Hein, lorsqu'on voit que l'autre bénéficie de telle grâce, bénéficie de telle opportunité, bénéficie de tel bien, hein, la réaction que l'on a souvent, c'est pourquoi lui et pas moi? Pourquoi lui et pas moi? Vous pouvez prendre l'exemple de petits-enfants. Vous savez, quand vous offrez un cadeau à l'un, même le jour de son anniversaire, on peut dire qu'il y a une raison particulière, c'est le jour de son anniversaire, vous offrez un petit cadeau au petit frère. Il y a le grand frère, plus âgé de 2 ans, qui va le regarder, qui va regarder ses parents de façon un peu étonnante. Hein, pourquoi lui et pas moi? Hein, donc on voit à quel point cela habite notre cœur. Et donc, c'est ce qui arrive. Hein. Il n'agréa pas Caïn et son offrande, et Caïn en fut très irrité et eut le visage abattu. Hein. Lorsqu'on entre dans cette non-reconnaissance qui habite notre cœur, qui n'est pas l'intention de Dieu, on va le voir. Hein. Si Dieu agrée une offrande, ça ne veut pas dire qu'il ne reconnaît pas la grâce propre de l'autre. C'est que la raison pour laquelle il agrée cette offrande, c'est quelque chose qui nous échappe. Pourquoi il choisit l'un et pas l'autre, c'est quelque chose qui nous échappe. Et c'est très bien que ce soit ainsi, parce que Dieu est Dieu, et que Dieu a ses raisons. Dieu, il voit très très loin. Et donc, il sait pourquoi. Nous, on ne sait pas très bien pourquoi. Donc, cette irritation qui apparaît et qui s'exprime en termes de visage abattu. Combien de fois par jour est-ce qu'on n'a pas le visage abattu, hein? Quand un collègue de bureau a une opportunité que l'on n'a pas, quand une sœur de communauté a une mission que je rêvais, à la mission que je rêvais d'avoir, quand un paroissien est appelé à exercer, je ne sais pas moi, telle responsabilité dans la paroisse, quand etc. Combien de fois par jour, combien de fois par semaine on n'a pas le visage abattu? Alors, ce qui se passe après est très beau. Le Seigneur continue de dialoguer avec l'homme. Il l'avait fait, vous vous rappelez, après le péché. Hein, très vite, il s'était adressé à l'homme en disant « Mais où es-tu ?» Et ici, la question qu'il pose, c'est « Pourquoi es-tu irrité ? Pourquoi ton visage est-il abattu ? Est-ce qu'il y a une raison ?» C'est une bonne question, en fait. Pourquoi est-ce que Caïn ne peut pas se réjouir, hein, que l'offrande de son frère soit agréée? C'est quand même une très bonne question. Pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu es bien disposé, ne relèveras-tu pas la tête? Voilà. On sent que Caïn entre dans un combat, le visage abattu. Le Seigneur lui demande pourquoi, l'appelle à une bonne disposition. Hein. C'est des questions parfois qu'il est bon de se poser hein. quand on a l'impression d'être abattu. Comment est-ce que on retrouve la bonne disposition, sinon grâce au dialogue avec le Seigneur, grâce à l'action de la grâce par rapport à laquelle on se situe. Mais si tu n'es pas bien disposé, et là le Seigneur l'avertit, le péché n'est-il pas à la porte, une bête tapie qui te convoite, pourras-tu la dominer ? Voilà, donc le Seigneur est en train de révéler le combat que Caïn est en train de vivre. Et en fait, comment est-ce que le péché se présente à lui? C'est très intéressant l'image. Hein, comme une bête tapie qui te convoite. Hein. Caïn a le visage abattu. Et puis, il y a cette... comment dire, cette tentation qui le tire encore plus vers le bas. Hein. Ce qui caractérise la tentation, c'est qu'elle... Elle nous pousse encore plus vers le bas. Donc c'est une bête tapie qui nous convoite. Et la question du Seigneur est très forte. Pourras-tu la dominer hein, donc il interpelle. Il interpelle la liberté de Caïn. Pourras-tu la dominer? Le Seigneur ne va pas la dominer à notre place. Hein. Il nous avertit petit à petit à la lumière de ce texte. Hein, on se reconnaît bien dans ce texte, on reconnaît bien des situations dans lesquelles on peut être, et c'est très intéressant parce que c'est là où la parole de Dieu vient nous éclairer. Elle vient nous éclairer sur la tentation, elle vient nous éclairer sur ce qu'on appelle habituellement la convoitise, mais plus encore dans ce texte, ce qu'on peut appeler la jalousie. Alors Caïn ne répond pas. Le drame de Caïn, le premier drame de Caïn, c'est que le Seigneur lui parle et il ne répond pas. Alors qu'est-ce que le texte nous dit? Cependant, Caïn dit à son frère Abel, donc il se tourne tout de suite vers son frère, « Allons dehors ». Quand vous trouvez dans la Bible cette expression « Allons dehors », c'est qu'il y a un drame qui va se passer. Hein. C'est à la fois « Allons dehors », certainement ils sortent de la maison, admettons, hein, ils sortent de l'habitation, mais le « Allons dehors » a peut-être une expression encore plus profonde, parce que là on est à l'intérieur du dialogue que le Seigneur essaye d'engager avec Caïn, et Caïn dit « Allons dehors ». Donc voilà, il sort aussi de ce dialogue. Et pendant qu'ils étaient en pleine campagne, en une phrase, hein, pendant qu'ils étaient en pleine campagne, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. En une seule phrase, se trouve exprimé le premier crime de l'humanité. Il y a une vitesse là. Il n'y a pas de détails. C'est très rapide. Hein, et cette rapidité peut nous faire penser à ce que Jésus dira à Judas. Ce que tu vas faire, fais-le vite. Fais-le vite. Quand on est tenté, quand on est pris par le mal, en général, comme on n'est pas fait pour le mal, on le fait vite. Hein. Quand vous piquez du chocolat, je sais pas, c'est plus pour les enfants, quand ils piquent du chocolat dans l'armoire des parents, c'est quelque chose qu'on fait très vite. Hein. En fait, le mal, il n'est pas fait pour qu'on demeure. Donc, alors, évidemment, le chocolat, c'est quelque chose de très superficiel, mais ici, on voit que pour quelque chose de bien plus grave, de très grave, hein, qui consiste à ôter la vie de quelqu'un, ça se passe très vite. Pourquoi est-ce que ça se passe très vite? Parce que Caïn se laisse prendre par ses passions. Hein. On est tous marqués par notre sensibilité. Hein. Tout ce que l'on vit éveille notre sensibilité, éveille notre affectivité. Et ce qui caractérise notre humanité, c'est que nous sommes doués d'une raison, d'un esprit qui nous permet toujours de prendre un peu de recul. C'est ce qu'on appelle la vertu de prudence. Hein. La prudence nous invite toujours à voir, est-ce que cet attrait que j'ai, ou bien est-ce que cette répulsion, est-ce que ce mouvement de la passion est juste ou non? Qu'est-ce que j'en fais? Là, la question ne se pose pas réellement. Hein. Le Seigneur essaye de dialoguer, mais on voit que Caïn se laisse prendre par cette colère qu'il habite, parce qu'il a l'impression de ne pas être reconnu, de ne pas être respecté, de ne pas être honoré dans son offrande. Alors, malgré ce crime, donc le crime en 1 qui nous est décrit en un verset, C'est assez impressionnant de voir que ce verset se trouve immédiatement relayé par le Seigneur d'Ithaca. Donc le Seigneur continue, il continue de parler, il continue de se révéler. Et que dit-il ? Il ne dit pas « Où es-tu ?» comme il avait dit à Adam. Il dit « Où est ton frère Abel ? Où est ton frère ?» C'est une bonne question par rapport au mal commis. Hein, le « Où est ton frère ?» resitue aussi l'homme par rapport à ce qu'il a fait. Hein, le « Où est ton frère ?» c'est « Où es-tu ?» Mais « Où es-tu ?» à travers l'acte que tu as posé. Vous connaissez la question que Caïn va poser au Seigneur. Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ? Alors quand même, quand on entend le « je ne sais pas », on se dit « il est gonflé quand même ». Le « je ne sais pas », c'est « et pourtant ». Quand on se laisse emporter par nos passions, en fait, on est divisé en nous-mêmes. Et donc, après coup, on se dit « mais je ne voulais pas ». Après coup, on se dit « mais c'était pas vraiment moi ». Donc, quand il dit « je ne sais pas », en plus c'est la première mort, il ne sait pas où est son frère. Je pense qu'il y a quelque chose de honnête. Alors j'essaye de sauver la proposition quand même. Mais je pense qu'il y a quelque chose de honnête. Hein. Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ? Le Seigneur reprit. Alors ça c'est assez beau parce que le Seigneur ne lui dit pas bah, « Évidemment que tu es le gardien de ton frère. » C'est pas ça qu'il dit. Qu'est-ce qu'il dit ? « Qu'as-tu fait ? Écoute le sang de ton frère crier vers moi du sol. » Il le resitue par rapport à sa responsabilité. Qu'as-tu fait ? Qu'as-tu fait ? Et écoute. Écoute le sang de ton frère crier vers moi du sol. Maintenant, sois maudit et chassé du sol fertile qui a ouvert la bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Hein ? Le sang qui crie du sol vers Dieu. Alors, c'est une réalité qui demeure actuelle. Hein ? On voit comment nos actes ont des conséquences. Il y a des actes très graves, des crimes qui ont été commis, qui rendent la terre inhabitable. Il y a des lieux où on passe, où le sang a tellement crié que cette terre est devenue inhabitable. Hein. Alors il y a des lieux très spécifiques. On peut penser par exemple au camp d'Auschwitz, au camp de concentration d'Auschwitz. Typiquement, c'est un lieu qui n'est pas habitable, parce que le sang du frère crie de façon extrêmement forte, le sang des frères crie de façon extrêmement forte. Il y a d'autres lieux qui sont inhabitables, tellement il y a eu de la violence et du crime humain. Mais si on est réaliste, on peut reconnaître que partout, il y a du sang qui crie. Il y a des quartiers dans nos villes où, effectivement, il y a de la violence, il y a des injustices. Il y a nos immeubles où tout n'est pas toujours évident, on n'est pas dans une béatitude parfaite. Il nous arrive parfois d'entendre, pas seulement les voisins se disputer, mais d'entendre ces disputes à l'intérieur de nos propres familles. Donc, ce que l'on fait a un retentissement sur la création, sur la terre. Quand je fais du mal à mon frère, eh bien, ce mal fait à mon frère va retentir sur l'environnement. Quand on va visiter une famille où il y a des tensions, eh bien, on sent que l'environnement est marqué par ces tensions. Quand on va visiter une communauté qui va bien, qui vient de connaître une grâce de réconciliation, eh bien, on sent dans ce lieu qu'il y a une grâce de réconciliation. C'est aussi le sens de certains pèlerinages. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'aller à Ars. Les sœurs, elles connaissent bien ce lieu, parce que c'est un lieu qu'elles habitent précisément. Mais voilà, les chrétiens aiment d'aller à Ars, les futurs prêtres, les prêtres aiment d'aller à Ars et d'aller voir le confessionnal du curé d'Ars. Pourquoi ? Parce que ce lieu est marqué par autant de grâce, de réconciliation. Donc l'espace est marqué par les actes que l'on pose, que ce soit les actes mauvais ou que ce soit les actes bons. Donc quand le sang du frère qui crie rend la terre difficilement habitable, c'est pourquoi Caïn deviendra errant. C'est la raison pour laquelle il ne pourra pas rester sur place. Pourquoi il ne pourra pas rester sur place ? Parce que ce qu'il a fait va, va l'habiter perpétuellement. Et quand il va croiser quelqu'un, et c'est ce qu'il dit au Seigneur, mais quiconque, voilà, celui que je croiserai va m'en vouloir, va me donner la mort, inévitablement, parce que comme il se sait capable de ça, il pense que tous peuvent le faire. Hein? Et donc il a peur. Il a peur et le Seigneur va veiller sur lui. Il lui dit voilà, celui qui te fera du mal, bien voilà, j'interviendrai. Hein? Je te vengerai. Hein? Mais la vengeance de Dieu, elle s'exprime toujours en termes de au fond quand même de bénédiction. Mais je reviens sur ce rapport à la terre parce que ça me semble important. Vous savez qu'il y a une référence dans l'épître aux Hébreux concernant le sang de Jésus, où il est dit « Le sang de Jésus crie plus fort que celui d'Abel. » Qu'est-ce que ça veut dire « Le sang de Jésus crie plus fort que celui d'Abel » Ça veut dire que les dons que l'on fait de notre vie, les actes de charité, sont plus profonds que le mal commis. Et donc quand vous habitez un lieu, quand vous habitez un immeuble, un appartement, une maison, une communauté, hein, comment la question qu'il est bon de se poser comme chrétien, c'est comment est-ce qu'on rend ces lieux habitables? Comment est-ce que nos actes de charité, comment le don de nous-mêmes rend ce lieu habitable? Hein? Nous avons cette vocation profonde d'être des hospitaliers, d'être des personnes douées d'hospitalité. Hein? Et plus on fait le bien, plus on creuse en nous notre capacité d'aimer grâce à l'amour de Dieu, plus notre cœur s'ouvre. Hein, et ô combien, la Bible le répète, notre cœur est appelé à s'ouvrir par rapport à l'étranger, par rapport à la veuve, par rapport à l'orphelin, par rapport à toutes ces personnes précisément qui ont besoin d'une maison, d'une famille. Hein. C'est là où le pape François rappelle aux chrétiens qu'il doit être aux périphéries, hein. Il doit être dans ces lieux pour accueillir. On a été accueillis par le Christ, on est aussi accueillis par la Vierge Marie. Le mystère de l'Immaculée Conception nous dit que son accueil est sans faille. Son accueil est entier. Il n'y a pas l'ombre d'un jugement négatif qu'elle pose sur vous. La seule chose qu'elle vous communique, c'est l'amour plaigné de Dieu pour vous. Quand vous regardez la Vierge Marie, elle est entièrement traversée par cet amour qui la sauve perpétuellement. Et c'est ce qui la rend infiniment hospitalière. Donc la question qu'on peut se poser ce quatrième jour de la neuvaine, c'est comment est-ce qu'on habite la terre qui est la nôtre, et comment est-ce qu'on fait de cette terre, comment est-ce qu'on fait aussi de notre cœur un lieu d'hospitalité à l'image du Christ et de la Vierge Marie. Voilà, je m'arrête là pour que vous puissiez vous préparer à la Sainte Eucharistie. Merci de votre attention. On se retrouve demain à 18h30.